Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
So, so, grosso, so, da.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aigo et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir Togo, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue au programme de Radio Canal 4 dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci également à nos radios partenaires FM Liberté, Radio Denigman qui synchronise également cette émission. Alors ce soir nous parlerons que de la situation sociopolitique au Togo. Achat de 5 hélicoptères Gazelle par le Togo. Que comprendre dans l'opposition du ministre français Jean-Yves Le Drian. Réforme politique au Togo. L'Alliance nationale pour le changement interpelle la CEDEAO et Jean-Pierre Fabre, chef de vue de l'opposition, appelle le peuple togolais à prendre ses responsabilités. Eh bien, mes auditeurs, notre correspondant au Togo, Rodrigue Aigo, a tendu notre micro à Jean-Pierre Fabre. Entretien à suivre tout à l'heure dans cette édition. Merci de nous être fidèles, mais en attendant, notre éditorial.
So grosso, so da. Elole.
Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, l'information doit forcément provoquer un électrochoc dans la mémoire et l'esprit des victimes de 2005 au lendemain du hold-up électoral perpétré par Fonia Zimbé et sa bande pour succéder à son père à la tête du Togo. Feu général Tidjani était à bord d'un hélicoptère et mitraillait sans cœur ni esprit, les Togolais qui fuyaient devant la barbarie des militaires déversés par l'armée partisane dans la préfecture des lacs pour réprimer dans le sang tous les citoyens qui tentaient de riposter contre l'imposition de Fonia Zimbé comme nouveau président. Si ailleurs, cet appareil est utilisé pour intervenir en faveur des populations, notamment sur le plan sanitaire, exemple de la Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara en a acheté pour équiper l'hôpital à Cocody. Au Togo, à mes auditeurs, l'hélicoptère a servi à tuer plusieurs centaines de Togolais. De quoi avoir peur? À mes auditeurs, effectivement, l'information relative à la commande de 5 hélicoptères par Fonia Zimbé et son régime dictatorial, avec environ 13 milliards de francs CFA du contribuable togolais, a résonné comme une menace dans l'esprit des Togolais qui ne peuvent en aucun cas se refuser le triste souvenir de 2005. Bien sûr, raison d'ailleurs pour laquelle l'information relative au blocage de cette commande par Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, constitue jusqu'alors une bonne nouvelle, même si elle ne rassure totalement personne, du moins ceux qui sont toujours éveillés. Jean-Yves Le Drian et son collègue du Quai d'Orsay ne sont pas du tout trompés quand ils soutiennent que ces 5 hélicoptères pourraient être utilisés à des fins de répression de l'opposition, surtout dans un contexte où de grands rendez-vous électoraux, voire 3, attendent le Togo. Oui, ils ne se sont pas du tout trompés. Au moment où les populations togolaises meurent de faim, le régime de Nyasimbe ne cesse d'engager de colossaux fonds en matériel militaire. Le régime de Nyasimbe compte à ce jour 4 patrouilleurs, 2 embarcations de type Defender faire par les États-Unis, des centaines de jeeps, des armes par commande officielle et officieuse. Le récent achat devrait se dérouler en Afrique du Sud, où malheureusement une délégation de l'armée togolaise envoyée par UNIR a été maîtrisée par des soi-disant braqueurs qui auraient emporté toute la liquidité contenue dans une manette. histoire a dormi debout. Juste une petite narration pour démontrer la réelle menace que constitue cette commande d'hélicoptère, heureusement bloquée par des Français qui ont encore leur cœur. La question aujourd'hui à mes auditeurs est de savoir ce que les Togolais peuvent faire pour que ce blocage ne constitue pas un feu de paille. C'est bien de cela qu'il s'agit, connaissant ce pouvoir qui dilapide les fonds du contribuable togolais juste pour combler la soif gloutonne de Fornian Singbi. S'il a été capable de faire don de 5 milliards de francs CFA à Manuel Valls, que ne sera-t-il pas capable de faire pour débloquer la situation et entrer en possession de ces 5 hélicoptères qui vont forcément servir à tuer les Togolais? Amis auditeurs, la question reste posée. Il faut donc prendre la mesure du danger qui guette le peuple togolais et tout mettre en œuvre pour empêcher l'acquisition de ce matériel militaire pour renforcer l'arsenal dont dispose déjà cette armée partisane et un féodé qui reste déterminé à protéger la dictature des Nyasimbe. À bon entendeur, salut. Merci de nous être fidèles sur le 3xW.kadalka.ch, FM Liberté, Radio Deniban et Eben Radio. Eh bien, mes auditeurs, avant de prendre notre premier invité en ligne depuis la France, accueillons d'abord notre correspondant au Togo, Rodrigue Ayego, qui nous fera le briefing sur l'actualité sociopolitique au Togo. Rodrigue Ayego, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les fidèles auditeurs et internautes de Radio Canal K, encore et toujours au rendez-vous de l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir également aux invités, sans oublier toute l'équipe de la rédaction.
Eh bien, au lendemain du nouveau blocage des discussions autour de la proposition de loi des députés, ANC a dit à la Commission des lois, CAP 2015 a animé un meeting d'information samedi dernier à Lomé. Alors, que retenir de ce meeting? Et puis, dis-nous, hein, Rodrigue, et que dit l'ANC de la probable désignation de Fornian Singbi à la tête de la CDAO?
Au lendemain du blocage des discussions autour de la proposition de loi portant réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale en étude à la Commission des lois de l'Assemblée nationale, CAP 2015, combat pour l'alternance politique en 2015 et ses alliés ont organisé un meeting pour faire la restitution à l'opinion et lancer un appel au peuple togolais quant au comportement à adopter pour aboutir à ces réformes indispensables à l'enracinement de la vraie démocratie au Togo. À ce rendez-vous, qui a vu la mobilisation à Bekodiadi de plusieurs centaines de militants et sympathisants des partis regroupés au sein du CAP 2015 et aussi de ses alliés, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition et président national de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, n'a nullement mâché ses mots. « Je demande au peuple togolais de se lever pour prendre son destin en main et continuer la lutte pour les réformes », a-t-il lancé comme appel au peuple togolais qui, selon lui, a le dernier mot. Jean-Pierre Fabre, comparant le peuple à un esclave, indique clairement que c'est toujours l'esclave lui-même qui se libère du joug de la servitude. Ainsi invite-t-il le peuple togolais à prendre ses responsabilités et se substituer aux parlementaires face à ce nouveau blocage. Le droit accusateur du chef de file de l'opposition est pointé vers le RPT Unir qui ne voudrait pas des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, lesquelles réformes, si elles s'opéraient, mettraient fin à la dictature que ce système incarne depuis plusieurs décennies. Le président de l'ANC parle de dilatoire dans le comportement du parti au pouvoir qui ne cesse de divertir et enfariner l'opinion et l'opposition en ce qui concerne ces réformes qui sont prévues par l'accord politique global APG qui serait caduque selon l'ancien ministre Florent Manganawe et le président de la Cour constitutionnelle Abdou Assouma. Loin de rester les bras croisés en attendant la réponse du peuple à son appel, le président de l'ANC invite les populations togolaises à rester mobilisées pour signer massivement leur présence à une prochaine marche de protestation. Restons toujours avec l'ANC pour vous informer de la réaction du parti de Jean-Pierre Fabre à la probable désignation ce dimanche à Monrovia de Fornian Singbi comme président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un courrier portant la signature de son vice-président Patrick Lawson, L'ANC indique que la désignation à la tête de la communauté d'un chef d'État coutumier des coups de force de tout genre et de surcroît réfractaire à toute réforme politique et électorale devant favoriser la promotion de telles valeurs est un danger pour la poursuite des efforts de démocratisation des pays membres et risque de discréditer l'ensemble de la communauté. Jean-Pierre Fabre et son parti redoutent que le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé devienne le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Pour l'ANC, si M. Gnassingbé est désigné comme président en exercice de la CEDEAO, les avancées démocratiques à l'ordre du jour de la communauté recevront un coup. Du moment où renchérit le communiqué de l'ANC, Faure Gnassingbé est le seul chef d'État des 15 pays de la communauté à s'opposer à la limitation du mandat présidentiel. Le parti Orange estime que la construction d'une CEDEAO des peuples, si chère aux États de notre sous-région, exige que la présidence en exercice de la communauté soit confiée à des chefs d'État bien élus qui assurent un leadership déterminé et résolument acquis aux valeurs fondamentales de démocratie, d'État de droit et de bonne gouvernance. L'ANC appelle donc solennellement les 14 chefs d'État à user de leur influence pour amener Faure Gnassingbé à opérer les réformes politiques prescrites par l'accord politique global APG, notamment la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à deux tours, à défaut d'empêcher sa désignation à la tête de la communauté.
Rodrigue Gallego, tu t'intéresses à un posting sur les réseaux sociaux dans lequel le professeur Kako Nubukpo serait revenu sur sa déclaration dans laquelle il accuse Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, d'être à l'origine de son éviction du gouvernement togolais. Alors, Rodrigue Gallego, qu'en est-il exactement?
J'ai quitté le gouvernement parce qu'il y a un président étranger, Ouattara, faisant allusion au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui a demandé à notre président Faure, faisant allusion à Faure Gnassingbé, de me virer du gouvernement parce que je critique le franc CFA, propos tenu par l'économiste et ancien ministre togolais de la prospective Kako Nubukpo, lors de sa dernière conférence débat animée à l'université de Lomé sur la thématique du franc CFA. Cette déclaration apporte une réponse claire aux questions que ne cessent de se poser les Togolais sur le débarquement de l'homme du gouvernement Ahoumé Zounou, ce qui justifie l'intérêt que les journaux y ont accordé dans le traitement du sujet dans les colonnes de leurs différentes parutions. Coup de tonnerre, quelques heures après cet aveu, un posting sur les réseaux sociaux faisait cas d'un mea culpa du professeur Kako Nubukpo qui estimait que les confrères auraient sorti la déclaration de son conteste. Selon ce posting, la conférence serait plutôt destinée aux étudiants et ne pouvait en aucun cas constituer un sujet de publication par les médias. Chose plutôt étonnante qui a poussé certains confrères à fouiner pour découvrir les fondements de ce posting qui non seulement prend à contre-pied la déclaration de l'homme, mais aussi ne cadre pas du tout avec les principes qu'on lui connaît. Au finish, l'on se rend compte à travers un autre posting couplé de publication à la une d'un journal de la place que le dit démenti aurait été concocté par un laboratoire du RPT Unir spécialisé en la matière. Très vite, le lien est fait avec le charcutage du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH version Kofi Kunté sur les allégations de torture avancées par des détenus et leurs avocats dans l'affaire dite de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Des mots ne cessent d'être utilisés pour qualifier ce comportement indigne d'une république, notamment banditisme d'État, gangstérisme d'État, etc. Le franc CFA, une servitude volontaire, c'est le thème de cette conférence débat qui a été le cadre choisi par le professeur Kako Nubukpo pour lever le voile sur ce secret qui a longtemps duré dans la mémoire de l'homme qui a du mal à digérer ce coup dur qu'a constitué son éviction du gouvernement quelques semaines seulement après la remise de son rapport de prospective portant Togo Vision 2030 au chef de l'État Faure Gnassingbé. Selon Kako Nubukpo, faisant la déduction de l'incongruité du rôle de la France dans la gestion du franc CFA, les accords qui lient la France aux pays africains ne sont pas des accords de nature monétaire mais de nature budgétaire. C'est pourquoi c'est qu'en 7 ans après les indépendances, nos chefs d'État continuent d'accepter le fait que leurs banques centrales qui sont indépendantes acceptent de s'inféoder à un ministère des Finances d'un pays étranger. Kako Nubukpo ne comprend pas non plus pourquoi il n'y a que 2 usines au monde qui fabriquent le franc CFA et que ces 2 usines ne se trouvent qu'en France. J'aimerais qu'on nous explique pourquoi les 15 États de la zone franc n'ont pas été capables de trouver un moyen, après 73 ans, pour fabriquer un billet de banque. Si pour une raison ou une autre, Paris décide de ne pas nous approvisionner, nous aurons des problèmes parce que nous ne savons pas fabriquer l'argent que nous utilisons au quotidien, a-t-il déclaré avant de conclure sur la nécessité de profondes réformes pour permettre de couper le cordon ombilical avec la France et définitivement mettre fin à la servitude volontaire.
Merci, merci beaucoup Rodrigue Ayego. Vous êtes notre correspondant à Lomé au Togo. Merci pour ce briefing sur l'actualité sociopolitique de cette semaine. Merci, bonsoir et bon week-end.
C'est 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit.
50 ans de dictature là, ça suffit.
Assassinats politiques, crimes économiques, cabésier au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vainc dans la dignité. Ceci est un message de la Coordination des Mouvements et Associations de la Diaspora, GFSA, en Suisse, Cause Commune, au Canada, USDCT, aux USA, Mouvement Mobilisons-nous, aux USA, Patriotes Togolais, aux USA, Groupe Sursaut Patriotique Togo, aux USA.
Oui d'accord, avions la voie, oui d'accord, milagro, welo, oui d'accord, avions la voie, oui d'accord, milagro,
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés.
Fidèles amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, l'information fait le buzz dans la presse togolaise internationale. Et comme à l'accoutumée, elle ne semble pas réveiller surtout l'attention du Togolais lambda. Le ministre français Jean-Yves Le Drian a bloqué une transaction du Togo portant sur l'achat de 5 hélicoptères Gazelle le 20 avril dernier. 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA. C'est le coût total de la commande. L'ancien ministre de la Défense Yves Le Drian et son collègue du Quai d'Orsay estimer que ces hélicoptères peuvent être utilisés à des fins de répression de l'opposition par les autorités togolaises. Comment comprendre ce droit de veto de la part des autorités françaises? Pour en parler, notre invité est François Fablega. Il est le directeur de communication de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Il est en ligne, en direct, depuis la France. François Fablega, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K et de Fenêtre sur l'Afrique, à Lomé, au Togo et de la diaspora dans le monde entier qui nous écoute ce soir.
Eh bien François Fablega, comment interprétez-vous ce blocage d'achat d'hélicoptères par Jean-Yves Le Drian, le ministre français?
Écoutez Sylvain, il y a à ce sujet beaucoup de commentaires contradictoires. Il convient de revenir à la genèse de l'affaire. C'est le 21 avril, soit trois jours avant que ne se déroule le premier tour de l'élection présidentielle, que la France, via le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Marc Ayrault, le premier ministre de François Hollande, faut-il le rappeler, aurait bloqué cette transaction. Mais il faut savoir que si Ayrault avait bloqué la transaction, Jean-Yves Le Drian, lui, en tant que ministre de la Défense, l'avait à l'époque autorisé. Et l'avait autorisé en vertu de l'accord bilatéral intergouvernemental intitulé « Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de défense », signé le 13 mars 2009 par l'ambassadeur de France au Togo de l'époque, M. Dominique Renault. Il faut bien voir, quand on parle de ce type de matériel, puisqu'on parle ici d'hélicoptères, que l'on n'achète pas ce genre de matériel comme on va acheter un paquet de café à l'épicerie du coin. Mais il est peut-être utile aux auditeurs, pour mieux comprendre les enjeux, de situer le contexte dans lequel ce petit soubresaut intervient. Que Jean-Yves Le Drian ait donné son feu vert n'est pas étonnant. Rappelons pour mémoire que Jean-Yves Le Drian fut le ministre de la Défense sans interruption du premier au dernier jour du quinquennat de François Hollande. C'est justement sous le quinquennat de François Hollande que les ventes d'armes ont explosé pour atteindre le chiffre vertigineux de 80 milliards d'euros. Entre les avions Rafale, les sous-marins nucléaires, les navires, les patrouilleurs, les hélicoptères et les matériels divers, l'industrie française de l'armement a trouvé en Le Drian un VRP de luxe, puisque c'est sous son ministère que l'industrie de l'armement a connu un véritable essor. En revanche, Le Drian n'est guère regardant sur les vertus démocratiques des régimes avec lesquels il a fait des affaires. C'est par exemple en Égypte et au Qatar, à hauteur de 24 pour chaque pays, qu'il a vendu les premiers avions Rafale de Dassault, avant de séduire l'Inde qui en a commandé 36. En bref, depuis 2012, les ventes d'armes ont doublé chaque année et cette industrie emploie en France 165 000 salariés. Jean-Yves Le Drian aimait à rappeler que 1 euro investi dans la défense représente une retombée de 2 voire 3 euros dans le civil. Selon le rapport annuel de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, en 2015, la France est passée de la 5e à la 4e place des pays exportateurs d'armes, derrière les États-Unis, la Russie et la Chine, et juste devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. En réalisant 5,6% des ventes d'armes du monde, la France reste loin derrière les États-Unis, 33%. La question n'est donc pas de savoir, selon la question qui se pose, ou que se pose plutôt l'un de nos confrères, si l'achat d'hélicoptères du Togo auprès de la France sera effectif, mais plutôt quand ils seront livrés.
Justement, merci pour toutes ces précisions, François Fabrega. Alors, peut-on considérer qu'il s'agit d'un coup de patte de François Hollande à Fornasimbe comme signe d'adieu?
Écoutez, la question d'une sorte de coup de pied de l'âne à Fornasimbe de la part de François Hollande me paraît peu probable. Il est en effet difficile de distinguer quel motif précis aurait pu avoir François Hollande pour refuser la livraison des hélicoptères à Lomé. Pourquoi ? Dans la mesure où durant tout son quinquennat, François Hollande, l'Africain et on pourrait dire le va-t-en-guerre, qui a engagé la France, ne l'oublions pas, sur de nombreux théâtres d'opérations militaires, et d'ailleurs souvent unilatéralement, sans mandat ni de l'ONU, et même en France, sans débat parlementaire, comme l'exige la Constitution de la France, eh bien, François Hollande a obtenu tout ce qu'il voulait à l'époque de Fornasimbe en matière de sécurité. Notamment, par exemple, le maintien permanent au Mali du plus important, à défaut de l'un des plus importants, parmi les contingents militaires envoyés par divers pays d'Afrique dans ce pays pour participer aux opérations contre les terroristes aux côtés de la force Barkhane. Par ailleurs, quand on sait aujourd'hui que François Hollande a voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, trahissant ainsi le candidat du Parti Socialiste, parti qui, rappelons-le, lui avait permis d'accéder au pouvoir en 2012, et que la passation de pouvoir entre Hollande et Macron fut la plus longue de toute la Ve République depuis 1956. Ce n'est pas de la malignité que de souligner que ces délais-là avaient sans doute ce jour-là beaucoup de choses à se dire et surtout à partager. À partager sans doute pour assurer dans les meilleures conditions la continuité d'une politique très largement contestée par l'immense majorité des Français, soit par opposition, soit par indifférence, si on en croit les sondages traitant du projet politique porté par Emmanuel Macron. À partir de ce moment-là, nous avons vu de quelle manière Emmanuel Macron s'est glissé dans le costume présidentiel de Hollande. Si l'on accepte le voyage à Berlin dès le lendemain de l'investiture pour faire acte d'allégeance à Angela Merkel, ce qui est devenu l'exercice obligé de tous les présidents libéraux de la Ve République depuis Sarkozy, le premier voyage de Macron fut de se rendre sur le théâtre d'opération militaire au Mali pour y visiter la force Barkhane. Si cet acte ne constitue pas un signal majeur adressé aux Africains sur ses intentions en matière de continuité de la politique africaine de François Hollande par Emmanuel Macron, que pourrait-il signifier d'autre? Ainsi, il n'a échappé dans cette affaire d'hélicoptère, pour y revenir puisque c'est notre sujet, à personne, que si Jean-Marc Ayrault a quitté le gouvernement, Jean-Yves Le Drian est lui resté dans le premier gouvernement nommé par le nouveau président Emmanuel Macron. Il a seulement, en quittant la Défense, changé d'attribution pour devenir ministre des Affaires étrangères. Donc, en conséquence, il occupe désormais les fonctions qui lui permettent de donner l'ultime feu vert à cette vente d'hélicoptères qu'aurait refusé Ayrault. Je dis bien qu'aurait refusé Ayrault. Il y a donc tout lieu de croire que les hélicoptères d'attaque arriveront bien à Lomé, directement ou indirectement, peu importe.
Et là, parlons toujours de ce blocage d'achat d'hélicoptères par Jean-Yves Le Drian. Alors, quel message, François Frega, quel message véhicule selon vous la position de Jean-Yves Le Drian par rapport à la commande d'hélicoptères par les autorités togolaises? Alors, à noter que ce dernier arguait que l'État togolais pourrait utiliser ces hélicoptères pour réprimer sa propre population.
Écoutez, Sylvain, je crois qu'il faut, encore une fois, savoir interpréter ce qui relève de la langue de bois ou non dans le langage diplomatique de Jean-Marc Ayrault, selon les déclarations qui lui sont attribuées. Pour que ces hélicoptères servent à réprimer éventuellement les populations du Togo, il faudrait que le niveau de contestation politique au Togo ait atteint un tel degré d'intensité que le pouvoir décide de recourir à du matériel très lourd, comme c'est le cas avec des hélicoptères de combat. Force est de constater, de ce point de vue, que nous sommes loin du compte au Togo et que jusqu'à présent, aucune rébellion armée ne s'est levée contre Forna Singbé et l'oligarchie qui le soutient. Et la réalité de la situation au Togo, la France de Le Drian, d'Ayrault et de Hollande, à qui rien n'échappe, le sait très bien. D'ailleurs, quand Jean-Marc Ayrault argue de cette nouvelle capacité répressive et des dangers de cette nouvelle capacité répressive qui serait offerte aux autorités togolaises, il se garde bien de faire référence à l'attitude récurrente du pouvoir de Forna Singbé et des forces de l'ordre togolaises, attitude qui consiste à chicoter, à gazer, à emprisonner abusivement tant l'opposition politique que toutes les forces de contestation en général, y compris celles de la société civile, mouvements étudiants ou sociaux de tous ordres, et que de père en fils, le pouvoir togolais n'a jamais ménagé. Pouvoir, d'ailleurs, qui n'a jamais utilisé jusqu'à présent les hélicoptères pour tirer sur les manifestants. Ah oui, certes, ils ont bastonné, ils ont gazé, mais jamais ils n'ont utilisé l'hélicoptère. Ainsi, le ministre français Jean-Marc Ayrault se référait, pour justifier de son refus, à deux utilisations d'hélicoptères de fabrication française pour réprimer des opposants dans deux pays du précaré francophone d'Afrique, par, il faut bien appeler un chat, c'est bien le précaré francophone d'Afrique dont il est question ici. D'une part, à Douala au Cameroun, en février 2008, lors de la répression des émeutes de la faim, il faut le préciser, 139 morts selon la société civile et 40 seulement selon les autorités camerounaises. Et le deuxième exemple que cite Jean-Marc Ayrault, c'est celui beaucoup plus récent qui s'est déroulé au Gabon, à Libreville, le 31 août 2016, lors de l'attaque du quartier général de campagne de Jamping, dans lequel on a malheureusement enregistré deux morts selon le camp de l'opposant gabonais. Donc, la fausse pudeur de Jean-Marc Ayrault à l'égard des Togolais prêterait à sourire dans le contexte actuel, tant est pesante, il faut le souligner, l'indifférence de la France à l'égard des citoyens togolais et de la société civile, dans une attitude qui, tout au long des présidences Chirac, Sarkozy et Hollande, a consisté pour Paris à s'accommoder, et ceci sans émettre la moindre remarque, du statu quo politique au moyen de la contre-vérité et surtout de l'absence de vérité des urnes dans toutes les élections qu'a connues le Togo sous l'ère de Fornia Singbé et auparavant sous le règne de Diadema. Donc, quand on connaît la propension de la France à donner des leçons à tout le monde, il semble ici que la pudeur de Jean-Marc Ayrault soit simplement une pudeur de façade.
En tout cas, merci pour votre réponse, mais et là, vous parlez également sans langue de voix, mais il faut quand même qu'on vous rappelle et vous rappelle également à nos auditeurs que l'État togolais et le régime de Fornia Singbé a déjà réprimé en 2005 les Togolais en utilisant un hélicoptère. Là, l'histoire l'a retenu François Fabregas. Alors, que pensez-vous, est-ce que vous pensez que le Togo a besoin d'hélicoptères dans le contexte actuel où le gouvernement évoque une certaine sécurisation des côtes du Togo?
Écoutez, sur cette question, Lomé aurait, paraît-il, donné des gages en avançant que les hélicoptères seraient essentiellement destinés à la surveillance des frontières et à la recrudescence des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Ceci prêterait à sourire, car quel gage serait en mesure de donner Fornia Singbé, lui qui a toujours roulé dans la farine de manioc, les Togolais en général et les dirigeants étrangers en particulier, érigeant le mensonge d'État en éthique de gouvernement. Donc, avant d'être l'obsession des autorités togolaises, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, puisque c'est l'objet de la discussion, est d'abord l'obsession des grandes puissances au rang desquelles la France et les États-Unis. Obsession du fait de la défense de leurs intérêts économiques et stratégiques ou géostratégiques dans le golfe de Guinée. Les observateurs avisés ont pu mesurer qui était à la manœuvre en arrière-plan dans l'organisation du sommet de Lomé sur la sécurité, sommet qui, rappelons-le, aurait coûté plus de 13 milliards de CFA au budget de l'État et qui, en prime, aurait donné lieu encore une fois à des détournements massifs d'argent. Il ne nous appartient pas d'évaluer la nécessité ou non d'ajouter des hélicoptères pour un montant de 10 milliards de francs CFA à la charge des Togolais au dispositif de surveillance pour seulement 55 km de côte maritime, hélicoptères qui viendraient s'ajouter à deux patrouilleurs neufs de type RB-33 vendus par la France, entre parenthèses, ajouté à deux autres patrouilleurs datant des années 70, ainsi qu'à deux embarcations de type Defender, récemment offertes par l'armée américaine au Togo. Dans la mesure où Fornia Singbe, soutenu par l'oligarchie, gouverne le pays dans la plus totale opacité, notamment celle des comptes publics, il est difficile d'évaluer avec exactitude les nécessités ou non de se doter de tels équipements. Il est notoire qu'il n'y a malheureusement pas au Togo davantage de vérité des comptes que de vérité des urnes, notamment celle des comptes publics. Dans ces conditions, il est difficile de porter une appréciation sur cette nécessité de se doter d'hélicoptères de combat. En revanche, compte tenu du service rendu éventuellement, il serait juste de mutualiser les coûts de la surveillance et de les répartir. Mais cette question n'est jamais abordée, surtout de la part de ceux qui économiquement en tirent le plus de profit, comme par hasard. Mais il faut aussi revenir au contexte international et ne pas perdre de vue que les lobbies de l'armement sont aujourd'hui plus puissants que jamais, comme en témoigne d'ailleurs le récent voyage de Donald Trump au Moyen-Orient, qui lui a permis de signer pour 380 milliards de dollars de contrats avec l'Arabie Saoudite, dont la plus large partie concerne des ventes d'armement à Riyad. On voit bien que dans ces affaires, les peuples n'ont hélas pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pas leur mot à dire. Est-ce que les habitants de l'Arabie Saoudite ont besoin de 380 milliards d'équipements militaires, autant que les Togolais, dont plus de 60% vivent dans une pauvreté absolue, ont besoin d'hélicoptères de combat? Non, nous ne le croyons pas. Nous croyons que les sommes dépensées pour de telles acquisitions feraient mieux d'être employées pour le développement à la base des populations du Togo.
Eh bien, François Fabrega, parlons un peu d'actualité concernant le blocage des discussions autour de l'opération des réformes politiques à l'Assemblée nationale. Et là, l'opposition parle de confiscation du pouvoir par Fornia Singbe. Et finalement, ANC, Alliance nationale pour le changement, vient de saisir la CEDEAO qui doit interpeller, selon Jean-Pierre Fabre, Fornia Singbe à respecter les accords de l'APG. Alors, François Fabrega, quelle est votre lecture de la situation?
Ce n'est pas la première fois que nous abordons à ce micro cette problématique. L'accord politique global est déjà vieux de 11 ans et les Togolais fêteront au mois d'août prochain, à l'évidence avec tristesse, le 11e anniversaire de sa signature qui ne s'est toujours pas soldée par la moindre avancée dans le domaine. Quoi que l'on puisse en dire, cet accord paraît être un bon accord. Pourquoi? Parce qu'il examine et prend en compte la plupart des problèmes qui conduisent au blocage politique et que par ailleurs, il est un bon support pour élaborer les solutions qui permettront de sortir la crise politique qui n'en finit pas de durer et qui entraîne crise politique qui entraîne la situation de blocage du fonctionnement des institutions en raison du déficit démocratique qui résulte de cette situation. En conséquence, utiliser tous les moyens à disposition pour tenter d'obtenir son application pleine et entière fait partie des obligations éthiques de toute force d'alternance politique qui se respecte. Mais, ceci étant dit, il est permis de s'interroger sur l'efficacité de certains moyens employés, notamment celui de déplacer le combat politique du terrain autochtone vers l'extérieur des frontières du pays, par exemple en appelant à la responsabilité des institutions internationales, au rang desquelles la CEDEAO, dont Fornia Singbe s'apprête à endosser l'habit de président en exercice le 4 juin à Monrovia, c'est-à-dire demain. Comme tant d'autres institutions supranationales en Afrique, la CEDEAO fonctionne davantage comme un syndicat des présidents à vie, à quelques très rares exceptions près, que comme une institution démocratique. Dans ces conditions, que peuvent attendre les Togolais de Fornia Singbe en tant que président de la CDAO, alors que, au Togo en tant que président, il ne respecte pas sa parole et refuse depuis 11 ans unilatéralement et en utilisant de moyens dilatoires d'appliquer l'accord politique global. La seule question qui importe donc, c'est ce que pense le peuple du Togo de la manière dont Fornia Singbe conduit les affaires du pays et jusqu'où, lui le peuple, il est prêt à aller pour obtenir ce qui lui est dû. Je dis bien ce qui lui est dû, car le pillage de la ressource des Togolais au profit d'une minorité que constitue cette oligarchie est un scandale en soi. Donc, c'est à lui seul, au peuple et à lui seul, qu'il revient de décider, et c'est finalement lui qui décidera. Dans ces conditions, il convient de préparer les prochaines, et il revient au peuple de s'immiscer dans le débat politique le plus largement possible. Et il convient donc de préparer les prochaines échéances électorales dans les meilleures conditions. Le peuple du Togo, à travers toutes sortes d'initiatives et avec l'appui des mouvements citoyens non inféodés au pouvoir, bien entendu, doit prendre toute sa part de la préparation des scrutins législatifs de 2018 et présidentiels de 2020 et exiger cette fois des partis politiques une préparation sans faille pour, grâce aux moyens que permettent aujourd'hui les techniques de communication, obtenir qu'enfin au Togo, après une attente de 44 ans, éclate enfin la vérité des urnes qui montre que ce pouvoir est largement minoritaire dans le pays.
Voilà une analyse claire et limpide. Et là, ça se voit tout ce que vous connaissez très bien, vous maîtrisez très bien la situation sociopolitique au Togo. Je rappelle que vous avez vécu au Togo pendant presque 6 ans. Alors, quel sera votre mot de fin dans cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur la dernière question? Quel doit être le rôle de la diaspora togolaise face à cette situation? Et votre mot de fin, François Fabrega?
Du côté de les choses semblent bouger positivement du côté de la diaspora. Avec l'initiative du consensus de Chicago, la diaspora s'est enfin dotée, après tant d'années de tâtonnements et de tergiversations, d'un véritable outil de combat au sens noble du terme. Selon toute probabilité, avec ce nouvel outil, Fornia Singbe devrait éprouver les plus grandes difficultés pour phagocyter cette initiative, et il y a fort à parier que, tel que le consensus de Chicago s'est organisé, il n'y parviendra pas. Ainsi, nous encourageons le plus grand nombre de citoyens togolais de la diaspora à prendre toute leur part à la réussite de cette initiative dans la durée. Et pour terminer, j'adresse un salut fraternel à tous les éditeurs, à Lomé et au Togo en général, et toute la diaspora dans le monde entier qui nous écoute aujourd'hui.
François Fabrega, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France. Je rappelle que vous êtes le directeur de communication de CVU-Diaspora, et CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Vous connaissez très bien le Togo, vous y avez vécu pendant presque 6 années. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France. Merci et bonsoir.
Au revoir.
Accusé de troubles à l'ordre public lors d'une manifestation relative à la grève des enseignants d'Outi Kadiorin, Kambate Garimbitsedou, Dankour Kanatin, Dankour Limogio, Bassar Nipton, groupissent depuis avril 2017 à la prison civile de Dapaon. Ils ne soutiennent en réalité que les élèves de Dapaon qui réclamaient les cours et leurs enseignants. Pour que triomphe la liberté et la démocratie, libérez-les et sans condition. Ceci est un message de la diaspora togolaise sans couleur politique.
Et Frère uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère âme, je sais que tu as un cœur. Regarde-moi encore une fois.
Soldat, ne me tire pas. Soldat, ne m'abat pas. Soldat, ne me tire pas. Soldat, ne m'abat pas.
Frère en uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère en âme, je sais que tu as un cœur. Avant de nous terminer, regarde-moi encore une fois.
Amis auditeurs, malgré la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 22 mars 2017 qui avait statué que la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale dut adopter son rapport et le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, les discussions autour des débats de l'opération sont toujours bloquées à l'Assemblée nationale. Députés du groupe parlementaire ANC a dit et ceux de Unir majorité n'arrivent pas à s'entendre sur la question de limitation de mandat du président de la République ainsi qu'une élection à deux tours. L'opposition parle de confiscation du pouvoir par Fonia Singbe. Devant cette situation, l'Alliance nationale pour le changement ANC vient de saisir la CEDEAO afin qu'il mette la pression sur le pouvoir togolais à respecter l'accord politique global APG. À mes auditeurs, notre correspondant au Togo, Rodrigue Ayego, s'est entretenu hier à Lomé avec Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Nous vous proposons de suivre cet entretien exclusif.
Monsieur Jean-Pierre Fabre, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes le président national de l'Alliance nationale pour le changement et chef de file de l'opposition. Tout comme en 2014, la proposition de loi formulée par les députés de l'ANC a dit qu'on a un nouveau blocage. Quel sentiment vous anime face à ce nouveau blocage?
Je comprends simplement que le régime RPT Unir ne veut pas faire les réformes. Et la attitude actuelle nous le confirme. Et donc, la proposition de loi, vous avez vu tout l'effort que nous avons fait pour que cette proposition de loi soit de nouveau examinée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a fallu saisir la Cour constitutionnelle pour lui dire de donner injonction à la commission des lois pour que les travaux reprennent. Les travaux ont repris et comme il fallait s'y attendre, le pouvoir s'est livré à une manœuvre d'obstruction. Malheureusement, dans les assemblées, quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, les manœuvres d'obstruction s'appuient sur le règlement intérieur. On utilise le règlement intérieur. Ici, il s'agit d'arbitraire. Il s'agit simplement pour la commission des lois de rédiger un document qui n'est pas ce qu'on appelle le rapport de l'étude au fond de la proposition de loi et qui ne suit pas la procédure, qui n'a pas suivi la procédure habituelle. Il s'agit d'aller déposer sur la table de l'Assemblée nationale un rapport de séance sur lequel l'Assemblée nationale, la plénière, ne peut pas s'appuyer pour mener un débat qui aboutisse au vote. Donc, la commission des lois est en train de se livrer à une manœuvre, une sordide manœuvre d'obstruction.
Voilà, du côté des députés du pouvoir ou de la majorité présidentielle, si on peut l'appeler ainsi, ils pointent le doigt accusateur vers l'ANC et estiment que c'est faute de consensus. Qu'est-ce que vous pensez de cette accusation?
D'abord, ils pointent un doigt accusateur en direction de l'ANC. Je crois que ça, il faut considérer ça comme ce qu'on appelle en français l'hommage du vice à la vertu. Nous faisons notre travail de parlementaire. Nous avons déposé une proposition de loi et nous considérons que la proposition de loi doit suivre la procédure, le processus habituel pour aller en plénière et être examiné par la plénière, être adopté ou rejeté. Alors, ça, donc, je ne vois pas où est-ce qu'il faut aller chercher l'ANC. D'autant que dans la proposition de loi est une proposition de loi ANC a dit. Et ensuite, j'étais à la séance du 18 mai dernier, les députés de l'opposition qui sont intervenus étaient les députés du FDR, évidemment de l'ANC, du CAR, etc. Ça n'a rien à voir avec les manœuvres de blocage de l'ANC. Deux. Trois. Le consensus dont on parle. Je voudrais vous dire que c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui au Togo. Aucune disposition dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'oblige un parti, une formation politique qui a déposé une proposition de loi d'obtenir le consensus avant de déposer sa proposition, le consensus des autres membres de l'Assemblée avant de déposer sa proposition de loi. Ça, c'est un. Ensuite, la Cour constitutionnelle, dans sa décision, a bien précisé que le consensus ne saurait être un préalable pour l'examen ou l'étude d'une proposition de loi par la commission des lois. Enfin, je peux dire que si le consensus était une condition requise, cette condition est déjà remplie puisque l'APG est un consensus. Nous avons déjà le consensus. Nous avons fait beaucoup de concessions à Ouaga avant de signer l'accord politique global. Je suppose que le RPT Unir, qui n'était pas Unir à l'époque, a également fait un consensus. C'est ce qu'on appelle un consensus. Donc, l'APG en lui-même est un consensus. Et invoquer le consensus aujourd'hui pour justifier le refus d'examiner une proposition de loi en violation du règlement intérieur, je crois que c'est simplement l'arbitraire. Et si le RPT Unir n'avait pas cette majorité mécanique à l'Assemblée nationale, il ne se livrerait pas à ce jeu-là. C'est juste parce que, un, ils ont cette majorité à l'Assemblée nationale, deux, ils ont la force, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ANC, ça n'a rien à voir avec le consensus. Ils ne veulent pas être confrontés à une situation dans laquelle ils se retrouveraient devant la plénière et être dans l'obligation de rejeter la proposition de loi de révision constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle ils se livrent à ces manœuvres-là. Ils ne sont pas plus malins que nous. C'est juste, un, ils ont la force, deux, ils ont cette majorité.
Alors, Monsieur Jean-Pierre Fabre, dites-nous, pourquoi insister que les réformes se fassent à l'Assemblée nationale au moment où
au moment où, il n'y a pas de moment. Moi, si vous vous souvenez, en février 2014, j'ai écrit au chef de l'État pour lui parler de quoi ? Pour lui parler des réformes et dire, il est temps de faire les réformes dans la perspective des élections, de l'élection présidentielle de 2015. Je lui avais adressé une lettre. Il m'a répondu en me disant que heureusement qu'on a une Assemblée nationale qui fonctionne bien. aller faire les réformes, il propose qu'on fasse les réformes à l'Assemblée nationale. Je lui ai répondu que l'Assemblée nationale n'est pas le lieu de la recherche du consensus. C'est le lieu du règne de la majorité. Et que donc, il vaut mieux qu'on se retrouve en discussion, en négociation, pour régler les problèmes, les questions liées aux réformes. Mais que je souhaiterais venir le lui dire de vive voix. Et j'étais accompagné. Donc, il a accepté. Et si vous vous souvenez, le 15 mars 2014, j'étais accompagné à la présidence de la République par Zeusa Javon, Aimé Goguet, Abitissa, qui étaient des collègues de Sauvons le Togo. Donc nous étions allés le voir et nous lui avons bien précisé qu'il est important que ces réformes se fassent après des discussions, un dialogue. C'est lui qui a insisté pour aller à l'Assemblée nationale et qui a introduit un projet de loi de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Projet de loi qui a été examiné par la plénière de l'Assemblée nationale et rejeté le 30 juin 2014. Donc, en fait, c'est lui qui souhaite que les choses se fassent à l'Assemblée nationale parce que il détient la majorité à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, lorsque je lui ai rappelé, au cours de la deuxième rencontre qui a eu lieu entre nous, je crois le 22 novembre 2014, que le RPT Unir a rejeté le projet de loi que son gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale et que ça ne s'est jamais vu dans aucun pays au monde, il a répondu que ce n'est pas la majorité RPT Unir, c'est l'Assemblée nationale. Et je lui ai dit, nous, comme un seul homme, nous avons voté pour le projet de loi que lui, il a introduit à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, nous ne disons pas que nécessairement les réformes se fassent à l'Assemblée nationale. C'est lui qui veut les faire là-bas. Maintenant, nous avons introduit une proposition de loi conformément à l'accord politique global. Il ne peut pas rejeter quelque chose là-dedans. Tout est conforme à l'accord politique global. Donc, c'est parce que il ne veut pas faire les réformes, qu'il ne veut pas que sa majorité adopte les propositions que nous avons de modification ou de révision constitutionnelle que nous avons introduite dans la Constitution, qu'ils sont en train de faire ce dilatoire pour éviter d'aller rejeter en plénière la proposition de loi de révision constitutionnelle et pour éviter de susciter la désapprobation générale.
Alors, monsieur Jean-Pierre Fabre, dites-nous, c'est vrai que votre courrier a été répondu par le chef de l'État et par après, il a mis en place une commission d'intellectuels pour opérer les réformes. Quelle lecture vous faites de la volonté ou de cette volonté du président qui s'attache vraisemblablement aux réformes?
Non, il ne veut pas faire les réformes conformément à l'accord politique global. Il veut enterrer l'accord politique global. Et il est allé se trouver des alliés. Vous savez, quelle est la responsabilité des élites africaines dans l'échec de l'Afrique depuis les indépendances? Donc on trouve toujours des représentants des élites pour soutenir ce qui a plombé l'évolution de l'Afrique. Donc il est allé se chercher des gens qu'il appelle des intellectuels. Moi, je ne veux pas leur disputer cette appellation d'intellectuel, mais je crois que ça n'a rien à voir avec le débat politique. Ça n'a rien à voir avec le débat politique. Je ne vois pas quel est le mandat de ces gens qu'il est allé chercher. C'est lui-même qui unilatéralement a désigné ces gens-là. Ça n'a rien à voir. L'accord politique global existe et doit être appliqué, quel que soit ce que lui veut faire. Évidemment, il veut échapper à l'application de l'accord politique global. Mais ne nous parlez pas d'intellectuel ou de pas intellectuel. Non, la question est l'application des réformes prescrites par par l'accord politique global.
Alors, au même moment, nous apprenons que le pouvoir serait en train de proposer des réformes qui prévoient le mandat, un mandat de 7 ans renouvelable, avec la remise à zéro du compteur, où tout le monde, comme candidat de l'opposition ou du pouvoir, ou même la personne de Faure Gnassingbé, pourrait se présenter.
Non, la question n'est pas de savoir ce que veut faire Faure Gnassingbé ou bien ce qui va sortir des réflexions de cette commission de réflexion sur les réformes politiques. La question est de savoir ce que veulent les Togolais. Est-ce que les Togolais souhaitent que l'accord politique global qui a été signé en 2006, c'est-à-dire il y a bientôt 11 ans, soit appliqué, soit mis en œuvre? C'est toute la question. Ce que contient les travaux, ce que contiennent les travaux de cette commission, bon, il revient aux Togolais de dire non, ce n'est pas à nous. Vous savez, les représentants du peuple que nous sommes, nous sommes à l'Assemblée nationale et il y a une proposition de loi de révision constitutionnelle qui est conforme à l'accord politique global. Le peuple togolais souverain doit soutenir cette proposition de loi de révision constitutionnelle parce que elle est conforme à l'accord politique global que nous avons dû signer pour calmer la situation politique au Togo en 2006, après les massacres des populations d'avril 2005. Donc, il ne s'agit pas de laisser M. Faure Gnassingbé tenter d'échapper à l'application de l'accord politique global. Me poser la question de savoir ce que je pense de ça, non, je ne veux rien penser de ça. Je veux juste que l'accord politique global soit appliqué. Vous savez, dans la vie, quand on est digne d'être appelé homme, on honore sa signature. Et il faut que les Togolais contraignent ceux qui ont signé l'accord politique global d'honorer leur signature. Voilà. Moi, ce que je pense ou ne pense pas, je ne pense rien du tout de cette affaire. Je pense qu'il faut appliquer l'accord politique global. Et vous savez, il y a des hommes, des gens qui prétendent faire de la politique et qui racontent n'importe quoi. Je les laisse à leurs élucubrations. Je laisse le peuple togolais les juger. Moi, je suis un lutteur. Je mène une lutte de libération nationale. Je ne mène pas une lutte dans un contexte démocratique. Il faut que nous sachions très bien cela. Nous sommes des combattants. Nous menons une lutte de libération nationale. Nous sommes ouverts, mais nous avons une attitude de fermeté. Nous sommes ouverts à la discussion. Ouverture et fermeté. C'est ce que nous essayons d'avoir comme attitude. Et je ne veux pas écouter. Vous savez, les hommes politiques, ça va, ça vient. Il y a beaucoup qui sont passés de l'autre côté, qui ont soutenu le régime qu'ils ont prétendu combattre, qu'ils sont en train de le soutenir, ou d'autres qui font le nomadisme politique, ils vont et viennent. Ça n'est pas mon attitude. Et les gens diront ce qu'ils voudront, mais nous pensons que nous avons un mandat du peuple pour lutter et pour obtenir que le Togo devienne un État normal qui va vers l'instauration de l'État de droit, de la démocratie et de l'alternance. C'est tout. Le reste, ça, on dira ce qu'on voudra, hein, c'est notre lutte.
Voilà. Des hommes politiques comme vous prévoient également la possibilité d'un référendum pour faire passer les réformes. Dans le contexte actuel, est-ce que le Togo a besoin d'un référendum?
Non. Si on n'avait pas un accord politique, on pourrait penser au référendum. Mais il y a un accord politique, il faut l'appliquer. Quand quelqu'un veut échapper à un accord, je dis d'abord que c'est honteux, Il veut échapper à un accord qu'il a signé. Il veut enterrer l'accord. Je ne l'aiderai jamais à enterrer l'accord politique global. Je n'aiderai personne à enterrer l'accord politique global. Que ça soit bien compris par nos détracteurs et par ceux que nous avons en face de nous, que ça soit très bien compris. Nous n'aiderons personne à enterrer l'accord politique global.
Alors, Monsieur Jean-Pierre Fabre, une dernière question. Dimanche prochain, si tout va bien, le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, sera désigné président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un bon élève avec une promotion parfaite.
Non, pas du tout. Je ne crois pas que être désigné président en exercice de la CEDEAO, ça sanctionne une attitude ou bien c'est un brevet de bonne conduite. Non, pas du tout. Je crois que ça se fait par roulement. Malheureusement, les chefs d'État de la CEDEAO, c'est vrai, pensent désigner M. Faure Gnassingbé selon les informations à notre connaissance comme président en exercice de la CEDEAO pour l'année 2017-2018. Bon, nous ne sommes pas favorables à ça. Si on a demandé notre accord, on dirait non. Il n'est pas qualifié en raison de son attitude, en raison de son attitude contraire au protocole sur la bonne gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. En raison de son attitude, en raison de son refus d'opérer les réformes, en raison de la manière dont les élections se déroulent au Togo, en raison de tout un ensemble d'éléments, M. Faure Gnassingbé n'est pas qualifié pour être désigné président en exercice de la CEDEAO. Mais nous ne pourrons pas l'en empêcher, puisque on ne nous demande pas notre avis, c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui procèdent à cette désignation. Nous disons simplement que si les chefs d'État de la CEDEAO pensent que c'est la manière de l'amener à opérer les réformes chez lui, nous pensons qu'ils se trompent, mais bon, ils doivent lui dire que on vous a désigné pour présider aux destinées de la CEDEAO pendant un an. On espère que vous allez vous conformer dans votre pays au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, c'est dommage, mais bon.
Alors, puisque vous dites que c'est dommage, d'ailleurs, vous avez sorti un courrier pour l'entrevoir comme un danger éventuel à la tête de l'espace CEDEAO. Quel appel avez-vous aujourd'hui, en tant que chef de file de l'opposition, à lancer à l'endroit de ces chefs d'État qui vont désigner Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO?
Je leur demande, et j'espère qu'ils vont me suivre, je leur demande de le contraindre. J'espère qu'ils en ont les moyens de le contraindre à opérer les réformes au Togo. Et parce que la désignation de quelqu'un qui met en danger la paix dans la sous-région comme président en exercice n'est pas quelque chose de normal. Mais s'il se voit obligé de le faire, qu'il lui recommande pendant sa période, pendant son mandat, d'opérer les réformes chez lui.
Merci, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Je rappelle que vous êtes chef de file de l'opposition et président national de l'Alliance nationale pour le changement.
Je vous en prie.
Le combat continue. La lutte continue. Le combat continue. La lutte continue. Tant que ces inconscients refusent de partir là, on va jamais baisser les bras. Tant que ces dictateurs refusent de céder là, on va jamais baisser les bras. On va les démontrer que nous sommes déterminés. On va les démontrer que nous irons jusqu'au bout. Nous sommes allés trop loin pour reculer. Il n'y a plus question de marche arrière. devant les bombardements. Nous allons résister devant les gaz lacrymogènes. On va supporter devant les policiers et gendarmes. On va résister. Le combat continue. Oui, je suis Amen Jassissé. Je salue tous mes frères combattants de la liberté. Sans oublier Amos de la radio Canal K depuis la Suisse. Rastafari.
Eh bien, merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.chc radio partenaire. Face au climat politique malsain couplé d'une longue durée crise sociopolitique, des mouvements citoyens au Togo comme dans la diaspora s'activent et tentent d'apporter ou de proposer une solution de sortie de crise. Même si la plupart de ces actions ne portent pas encore leurs fruits, il n'en demeure pas moins de relever que ces mouvements tentent d'être actifs sur le circuit politique. Patriotisme oblige. Et c'est dans cette optique que le mouvement à la gare du docteur Ekwefoli Gada a proposé un document sur la Fédération républicaine pour l'alternative FRIL. Un document de plusieurs pages publié tout récemment. Et pour en savoir plus à mes auditeurs, nous accueillons pour vous Dr. Ekwefoli Gada, ligne depuis l'Italie. Dr. Ekwefoli Gada, bonsoir.
Allez, bonsoir mon très cher Amos Sylvain. Je salue également toute la diaspora et nos auditeurs qui nous suivent depuis le Togo et tous les Africains qui nous font l'honneur de suivre notre actualité, l'actualité politique de notre pays, le Togo.
Eh bien, docteur Gada Ekwefoli, nos questions seront un peu plus longues et pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre ce que vous proposez là. Alors, la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique a bien lu votre document. Alors, en substance, dans l'introduction de votre proposition d'alternative au statu quo et qui prévoit actuellement au Togo, vous parlez de refondation de la République. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, docteur Gada. Renverrez-vous les opprimés et les privilégiés dos à dos en matière de responsabilité? Alors, comment l'opprimé peut-il adhérer aux airs du pardon, de l'unité, de l'amour, si le privilégié, son bourreau, et persiste à le narguer, le mépriser et l'opprimer davantage, sans témoigner de la moindre volonté de repentance ni d'unité? Docteur Gada Ekwefoli.
Allez Sylvain, vraiment je vous remercie pour cette question qui me permet de dire à nos auditeurs déjà que nous avons adressé un courrier en décembre 2016 au chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé Sozimna, dans lequel nous lui exposions la proposition du fédéralisme. Et, c'est-à-dire nous faisions constater au chef de l'État que le Togo est aujourd'hui dans une situation très grave, qu'il connaît d'ailleurs, un statu quo politique qui risque de nous amener tout droit vers un conflit civil, une guerre civile, ou pourquoi pas une sécession du Sud. Et si aujourd'hui il y a une certaine relative paix au Togo, c'est justement parce que les populations du Sud, qui sont celles qui sont les plus opprimées, et ne sont pas des populations guerrières. Si nous étions dans un théâtre comme le théâtre du Congo-Brazzaville, ou le théâtre camerounais où beaucoup de communautés ont eu l'habitude de guerroyer. Écoutez, le Sud se serait déjà rebellé hein, contre le pouvoir de l'État. Alors, parce que l'oppression au Togo a pris la forme d'une oppression communautaire. Donc, nous sommes dans une situation explosive, potentiellement explosive, qui est grave. Et depuis les élections présidentielles de 2015, nous sommes dans un statu quo, tout le monde le dit, cher Sylvain. Alors, l'opposition qui est considéré comme radical, n'a plus d'offre politique. L'opposition n'a plus d'offre politique. Le seul discours de l'opposition depuis plusieurs années, c'est les réformes. Vous le savez très bien. D'ailleurs, les réformes avaient fait objet d'une campagne avant les présidentielles 2015, où les gens ont crié, ont demandé, ont exigé les réformes avant les élections, mais à la fin, ils se sont présentés aux élections. Et après les élections, il y a eu un silence radio de près de 6 mois. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu un silence de la part du gouvernement qui a mis du pouvoir, qui a mis deux mois et demi pour former le gouvernement. Ensuite, l'opposition radicale n'a plus rien dit. On assiste maintenant à certaines vociférations d'une certaine opposition qui est modérée sur des radios, sur des chaînes de radio. Mais à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Le parti au pouvoir unir depuis les élections ne s'est plus presque jamais réuni. Nous avons des informations, c'est un parti qui est mort en fait. En fait, c'est une machine juste électoraliste qu'on active à l'approche des élections. Donc, la situation politique du Togo est telle qu'il y a un statu quo, il faut le dire. L'opposition n'arrive pas à s'unir et chacun prêche pour sa chapelle. Et le pouvoir est assis et le pays est administré. Les problèmes sont là, la santé, l'agriculture, l'économie, l'emploi des jeunes, l'éducation, tous les chantiers sont prioritaires. Mais il n'y a pas d'évolution. Donc il y a un statu quo qui nous permet de dire que ce pays doit aller à une refondation républicaine. On doit refonder notre pays. Et vous savez, on parle de refondation lorsque les fondements d'un édifice ont été mal placés. Donc, quand vous construisez une maison, vous le savez très bien, et à un certain moment donné, quand les fondements ou la fondation est mal posée, les murs que vous élevez ne sont pas droits. Les équerres vous donnent d'autres angles. Alors, que se passe-t-il? Tant que vous ne cassez pas l'édifice et vous reprenez les fondations, le mur, la maison risque un jour de tomber. Et qu'est-ce qu'on fait? On casse tout, on fait ce qu'on appelle la démolition. Et on replace les fondations. Notre pays, le Togo, nécessite une refondation de la République.
Eh bien, docteur Gadafolé, nous restons toujours dans ce document que vous proposez comme alternative au problème togolais. Alors, pourriez-vous nous instruire sur ce que vous entendez par le problème du Togo dans votre diagnostic?
D'entrée, je souhaiterais dire à nos auditeurs que le MPA, qui est le mouvement panafricain Alaga, avait déjà, en décembre 2016, adressé un courrier au chef de l'État, son Excellence Faure et Sozimna Nyasimbe, dans lequel nous lui exposions notre réflexion sur la situation de ce pays. Et nous disions clairement au chef de l'État que nous sommes dans une situation sans issue et qu'il faudrait à un moment donné qu'il y ait une refondation de la République, sans laquelle le Togo risque de connaître une guerre civile, un conflit armé ou une déstabilisation qui coûtera la vie de beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous l'avons dit et nous le dirons toujours, il faudrait que les acteurs politiques de notre pays, la société civile, la chefferie traditionnelle et tous ceux qui ont à cœur le bien-être de ce pays réfléchissent dans le sens des états généraux, d'une grande constituante, c'est-à-dire une refondation de notre République. Il n'y a plus d'issue, et c'est ce que nous disons. En fait, lorsque nous parlons de refondation, c'est que nous constatons que les fondements de ce pays ont été faussés. Absolument. Et quand vous avez une maison dont la fondation est mal placée, quelle que soit la bravoure ou l'intelligence des maçons qui travaillent pour vous, les murs ne seront pas droits. À un certain moment donné, un petit vent peut faire renverser votre maison. Et il va falloir donc que vous replaciez les fondements. C'est ce que nous disons. Le Togo est dans une situation telle que les tenants du pouvoir ne veulent pas laisser le pouvoir. Et alors qu'ils ne sont pas de bons administrateurs, ça nous le disons, c'est une constatation que nous faisons. Elle est d'ordre objectif. Vous me suivez? Les dirigeants de notre pays ne sont pas de bons administrateurs. Voilà. La population souffre. Et à côté de cela, on refuse de permettre à d'autres personnes de venir gouverner pour le bien du pays. Dans une situation pareille, que se passe-t-il? Où vous allez tout droit vers une guerre civile? Et je dis que la seule chance du Togo actuellement, c'est que les populations du sud, les populations éveillées et assimilées, les Mina et tout ça, ce ne sont pas des populations guerrières. Si nous étions dans un théâtre semblable au théâtre du Congo-Brazzaville, je vous assure, cher Sylvain, et le Togo aurait déjà connu une guerre civile, parce qu'on ne peut pas voler les élections. Une fois, deux fois, trois fois, tous les tripatouillages possibles. Je ne vais pas revenir aux événements de 2005 qui sont ahurissants dans l'histoire politique de l'Afrique entière. Et pourtant, des gens comme ça sont au pouvoir. La population subit, surtout c'est les populations du Sud, il faut le dire. Hein? Je reviendrai peut-être sur ce que j'appelle la sociologie des opprimés. Parce qu'au Togo, l'oppression politique, l'oppression sociale est dirigée d'abord vers les communautés méridionales. Oui, il faut le dire. Il faut avoir le courage moral de le dire. Nous sommes comme dans une situation où on vit la passion des populations du Sud. Voilà. Et en plus des populations du Sud, il y a des opprimés qui sont aussi au Nord, mais qui ne sont pas des opprimés dus, n'est-ce pas, à la haine intercommunautaire ou à une certaine compétition suprémaciste communautaire, mais qui sont seulement dus, ces opprimés-là, et subissent justement la malgouvernance des tenants du pouvoir, ce qui est très différent. Donc, nous sommes dans une situation pareille où nous pensons qu'il faudrait refonder la République. Maintenant, vous voulez savoir si nous mettons les opprimés et les oppresseurs au même rang au niveau des responsabilités? Nous disons non. Les responsabilités sont en effet partagées. Mais il faut avoir le courage de dire que dès lors qu'il y a des partis qui ne veulent pas accepter leurs responsabilités, qu'allez-vous faire? Vous allez faire une guerre? Non, à un certain moment donné, il faut que les opprimés qui ont conscience du bien-être et du caractère collectif d'un certain ou d'une certaine renaissance de notre pays, ces opprimés acceptent mettre de côté les brimades et les souffrances, surpassent les tentations de la haine et puissent pardonner, n'est-ce pas? Puissent pardonner afin de rassembler tout le monde et de faire de ce pays un territoire où il fera bon vivre à tout le monde. C'est un effort que nous parlons. En fait, c'est un effort, c'est un sacrifice supplémentaire. Mais il faut voir d'abord le bien du pays, que vous soyez oppresseur ou opprimé. Voyons toujours le bien de notre pays. Et le bien de notre pays nous commande, dans la situation actuelle, d'éviter toute guerre civile et d'aller auprès du pardon vers une refondation républicaine.
Comment définirez-vous à notre auditoire votre concept de fédéralisme dans le contexte togolais et en même temps expliquer la particularité de ce que vous appelez État régional construit sur la base de la pensée politique fédérale?
Écoutez Sylvain, c'est une question importante celle-ci. Tout comme tous les acteurs de la vie politique de notre pays, le MPA, qui est un groupe de réflexion et d'action, s'est invité, n'est-ce pas, dans l'arène sociopolitique, dans l'espoir d'apporter une contribution à ce que tout le monde appelle le problème de notre pays. Et donc, c'est quoi le problème? Quel est ce problème-là dont on parle dans les chancelleries, dont on parle aux Nations Unies, dont on parle à Genève, à Paris, à Londres, en Afrique, en Éthiopie, à Addis Abeba, dans presque toutes les capitales? Le Togo, ce petit pays de l'Afrique occidentale, il y a un problème là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi le problème? Ah bon, nous, au niveau du MPA, nous n'avons pas voulu faire l'impasse sur le diagnostic. On a fait un diagnostic de la problématique de notre pays. Et il y a plusieurs problèmes dans une problématique, n'est-ce pas? Mais il y a un problème qui est fondamental, que nous avons défini. Alors, le problème du Togo, à notre avis, ce n'est pas du tout le fait que une certaine minorité ait saisie, s'est accaparé le pouvoir d'État. Non, ce n'est pas le problème du Togo, cela. Le problème du Togo, c'est pas le fait qu'il y ait une certaine opposition qui, selon certaines personnes, s'agitent, fait de l'agitation sociale pour, soi-disant, chercher à renverser le pouvoir établi. Le problème du Togo n'est ni ceux qui s'opposent à l'alternance, ni ceux qui luttent pour l'alternance. Vous vous rendrez compte dans ce que je viens de dire, que j'ai fait ce que nous appelons la mutabilité de perspective. Parce que quand vous tenez du côté des tenants du pouvoir, le problème, dit Togo, c'est l'agitation des opposants, écoutez, c'est normal. N'est-ce pas? Et quand vous vous mettez du côté des opprimés, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas privilégiés, le problème, à votre avis, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des gens au pouvoir qui se soient accaparés le pouvoir d'État, qui administrent mal et qui refusent de partir. Donc, chacun a à partir de sa position une certaine définition du problème, une certaine perspective du problème du Togo. Et on ne peut pas dire que la définition des opposants soit celle qui est complète ou celle qui est juste. On ne peut pas non plus dire que le problème du Togo soit réductible à l'analyse qu'en font les tenants du pouvoir. C'est la raison pour laquelle le MPA dit ceci. Le problème du Togo, en fait, c'est une équation dont la résolution, la solution donnera la paix, l'harmonie, le progrès à tous les Togolais, aux opprimés d'aujourd'hui comme aux oppresseurs d'aujourd'hui. Le problème du Togo, selon nous, c'est l'incapacité. Suivez-moi très bien, Monsieur Sylvain Amos. C'est l'incapacité des Togolais, que je suis, que vous êtes, que nous sommes. C'est notre incapacité collective de trouver une forme d'administration de notre pays qui corresponde aux besoins de tout le monde à la fois. C'est de trouver la formule de gestion administrative et politique et économique de notre État, de ce petit pays, qui soit du goût de tout le monde. C'est cela le problème. Parce que les gens qui sont au pouvoir, ils ont trouvé une forme d'administration. Ils ont trouvé une forme de gestion des ressources humaines et matérielles de notre pays. Mais cette forme qu'ils proposent et qu'ils imposent au pays ne correspond pas à ce que tout le monde veut, n'est-ce pas? De la même manière, ceux qui luttent pour prendre le pouvoir, ils ont aussi une certaine acception de la gestion de notre État. Mais quand vous les entendez parler, vous vous rendez compte que, certainement, s'ils prennent le pouvoir aujourd'hui, et ils vont vouloir rendre la monnaie à ceux qui sont aujourd'hui les privilégiés. Et donc, est-ce que c'est cette vision-là du Togo, c'est cette vision du Togo quand les tenants du pouvoir, qui est celle qui est juste, est-ce que c'est cette vision ou cet argumentaire politique de l'opposition qui est celui-là qui est juste? Je crois tout humblement, et je le dis à toute la diaspora et à tous les Togolais, que notre problème, c'est que chacun cherche à imposer à l'autre une solution qui ne garantit que ses propres intérêts. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de passation de pouvoir consensuel. Il n'y aura pas au Togo d'alternance consensuelle dès lors que chacun cherche à tirer le drap de son côté. Et c'est cela le problème de notre pays. C'est cela le problème du Togo, de ces hommes. Les hommes du Togo, ceux qui aspirent à gouverner notre pays, ne sont pas des hommes, des républicains, des hommes qui pensent à tout le monde. C'est des gens qui pensent à leur communauté, et des gens qui pensent à leur fauteuil, et des gens qui pensent à leur ventre. C'est cela le problème de notre pays. Maintenant, le MPA propose à tous les acteurs, à la population, un modèle d'administration territoriale, un modèle d'administration, de gouvernement de notre pays qui va garantir, écoutez bien, au plan politique, au plan administratif, au plan économique, au plan culturel, à tous les Togolais une certaine quiétude, une certaine vie, une certaine harmonie.
Alors, on peut lire plus loin dans votre propos, je cite, vous dites, il faut pour le Togo une thérapeutique nouvelle qui garantisse l'équilibre au plan politique d'une part, et la tutelle des communautés de l'individu, pris comme unité anthropologique et citoyenne de base du territoire d'autre part. Alors, docteur Gaddafoli, vous qui pensez que ni les réformes politiques réclamées par les populations, ni la décentralisation ne résoudraient le problème togolais, car entre autres la franchise et la transparence feront défaut et que chaque bord les penserait pour ses intérêts égoïstes. Alors comment la fédération, et qui serait la nouvelle thérapeutique, ne serait-elle dans ce même contexte togolais perçue par d'aucuns comme préjudiciable à leurs intérêts, docteur Ekwefoli Gada?
Eh bien, voilà, Sylvain, que vous m'introduisez, en fait, à la thérapeutique que le MPA propose à notre pays, à tous les Togolais. C'est celui du fédéralisme. Alors, permettez-moi de dire, d'entrer à tous nos auditeurs, à tous les Togolais continentaux, à tous les Togolais de la diaspora, dispersés dans la diaspora, que le fédéralisme n'a rien à voir, à prime abord, avec la dimension territoriale des États. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'anthropologie physique des territoires. Beaucoup de Togolais, beaucoup de personnes disent, ou nous ont dit, que le Togo est trop petit pour le fédéralisme. Alors, on va pas faire un coup de droit public ou un coup d'histoire politique à la radio, n'est-ce pas? Mais je renvoie tous ceux qui peuvent aller chercher. Tout humblement, je renvoie tous ces gens-là à reprendre les notions de fédéralisme. Ils comprendront tout simplement que le fédéralisme n'a rien à voir avec la dimension géographique d'un territoire. Un pays petit comme Lomé peut être géré suivant un modèle fédéral, tout simplement. Le modèle fédéral, d'ailleurs, quand vous prenez une ville comme Lomé, avec ses différents quartiers, du moment où vous mettez, par exemple, à la tête de chaque quartier, des chefs quartiers qui ont un certain pouvoir, une certaine autonomie, entre parenthèses, constitutionnelle, vous êtes dans un modèle fédéral. Alors, le fédéralisme, ce n'est pas l'apanage des grands États comme les États-Unis, comme l'Inde, comme l'Australie, ou comme la Fédération russe, pas du tout. Un petit État comme le Togo peut être géré, gouverné, suivant un modèle fédéral. Et je vais vous donner des exemples que beaucoup de personnes peuvent aller vérifier. Il y a le modèle de la Suisse. La Suisse, dont la capitale est Genève, est très petite, elle est plus petite que le Togo. Mais la Suisse est un pays, est un État fédéral. La même chose vaut pour la Belgique, dont la situation est d'ailleurs très similaire à la situation du Togo, puisque la Belgique est passée de l'État unitaire vers l'État fédéral. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il n'y avait pas de l'harmonie. Parce que la Belgique, historiquement, est composée de trois grandes communautés ethno-linguistiques. Et à la fin, le système fédéral belge a dû reconnaître le particularisme de chaque grande communauté ethno-linguistique. Et c'est sur la base de cela que la République fédérale de la Belgique est organisée aujourd'hui. Donc, qui dit fédéralisme ne dit pas forcément des grands territoires comme le Congo, le Soudan, les États-Unis, l'Allemagne, pas du tout. Le Togo est un petit État plus grand que la Belgique, plus grand que la Suisse, et qui peut être géré suivant le modèle fédéral. Alors, le fédéralisme dont nous parlons, nous le disons très clairement, la façon dont il sera implémenté chez nous, ce sera l'État régional. En fait, il faudrait qu'aujourd'hui, les Togolais cessent de jouer aux hypocrites. Quelle est la raison pour laquelle l'armée est fortement polarisée nord? Pourquoi la raison? Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'on nomme un ministre, il se fait entourer par les gens de son village, de sa communauté? Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'une personnalité importante vient dans sa région, toutes les populations s'attendent à ce qu'il fasse des réalisations pour elle? C'est très simple. L'homme africain est un individu communautaire. Avant d'être un individu purement individualiste, nous sommes des êtres communautaires. Les Sud-Africains vous diraient, les populations bantoues de l'Afrique centrale vous diraient Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Donc, la communauté fait partie de notre culture, de notre identité. On ne peut pas faire abstraction de la communauté et construire des États dans notre environnement en Afrique suivant le modèle unitaire qui se base d'ailleurs sur les éléments du positivisme européen, où la cellule de base de la République, c'est le citoyen. Non, chez nous, il faudrait, les historiens, je parle aux historiens et aux politologues africains, togolais, il faudrait qu'on reconnaisse qu'avant le citoyen, c'est-à-dire la cellule individualiste, il y a la communauté. Et nous devons accepter cette donnée comme étant une donnée objective de base. Donc notre fédéralisme que nous proposons, c'est que nous reconnaissons qu'au Togo, il y a plusieurs grandes aires ethnolinguistiques. On fait correspondre des régions à ces grandes aires ethnolinguistiques, et c'est ce que nous appelons donc l'état régional. On permet à chaque région d'avoir un développement qui est en phase avec sa culture, sa microculture endogène, avec une région fédérale qui s'occupera des questions de souveraineté internationale. C'est comme cela que le Togo, ou nos États en général, vont recouvrer ce que j'appelle l'harmonie politique. L'harmonie politique. Alors, je suis historien et je suis politologue. Je ne peux pas avoir un regard sur nos États, sur l'Afrique, à travers le prisme occidental. Et c'est à ce problème-là que nous nous confrontons. C'est à ce problème-là que nous nous confrontons.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Alors, la texture sociologique au Bénin, au Ghana, en Afrique du Sud ou encore en France, avant Napoléon, n'est pas si loin de la togolaise. Hein. Alors, pourquoi l'État unitaire a-t-il pu finalement prospérer dans ces pays-là et constituerait une aberration donc au Togo, docteur?
Alors, ici, Sylvain, je crois que je vais vous décevoir un peu parce que je ne partage pas tout à fait les termes de votre interrogation. En réalité, je ne vois pas où, dans quelle mesure le Ghana ou le Bénin, qui est un système unitaire, il faut le préciser quand même décentralisé, et sont si prospères comme État. Donc je ne vois pas où, en quoi est-ce que ces États que vous citez sont prospères. Mais non, il y a les frictions, les problèmes, le même problème que vit le Togo sont vécus tous les jours dans ces pays, le Bénin au Ghana, mais aller dans les départements du Nord au Bénin, pour voir les tensions qui sont vécues par les populations du Nord, certaines populations de certains départements, contre le gouvernement central par rapport à la redistribution des... Alors, le problème de l'unitarisme, il est réel, même la France que vous citez. Mais la France n'a jamais prospéré avant Napoléon. Avant Napoléon, c'était la monarchie. Hein. Il y a eu la parenthèse de la Révolution française qui a été préparée et exécutée par la franc-maçonnerie. Mais après, quand Napoléon est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin à la République, il a réinstauré la monarchie. Et c'est sous la monarchie, la férule de la monarchie napoléonienne, que l'État, la nation française a connu ce qu'on appelle les balbutiements. Les balbutiements de sa naissance, de sa création, où on a imposé le français à toutes les communautés vivant dans le territoire français. C'est comme ça qu'on crée la nation. Il faut qu'il y ait une communauté de langue, une communauté de culture, une communauté d'us et de coutumes pour former une nation. Donc, des pays comme le Togo, qui ne sont pas des nations, le Togo n'est pas une nation, et je suis désolé, certains historiens du Togo ont poussé la folie jusqu'à décerner au feu général Nsingbé Yadema le titre du père de la nation. Bon, moi je dis que c'est vraiment l'ironie du sort. C'est-à-dire, on vous déclare père de quelque chose qui n'existe pas. Hein, géniteur de quelque chose qui n'existe pas. La nation togolaise n'existe pas. Il y a au Togo des nationalités, des communautés, il n'y a pas de nation togolaise. Il n'y a pas de communauté de langue, de culture, ni d'us, ni de coutume au Togo. Et donc, dans un État comme ça, vous voulez faire le système unitaire? Mais écoutez, mais il y a des intellectuels africains quand même. Il y a des politologues, il y a des historiens, des sociologues qui connaissent la science de la gouvernance des sociétés. Et il y a ce qu'on appelle les règles de composition des totalités humaines. Les Européens sont venus faire des colonies, ils sont pas venus construire des États et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais ils savent très bien, considérant la texture de nos territoires, que le modèle unitaire est une aberration chez nous. Donc, je ne vois pas où, dans quelle mesure le Ghana ou le Bénin, d'abord, je précise que le Bénin est assez décentralisé, mais les frictions demeurent toujours. Mais au Togo, il y a quand même une grande population, 52% d'une certaine homogénéité, les populations éveillées et assimilées. Donc, si vous faites un système unitaire avec un pouvoir central, mais c'est clair que dans une élection où on ne triche pas, les représentants de cette population vont toujours gagner. Si on fait des élections au Togo, dans le système unitaire, écoutez, et on ne triche pas, mais le représentant, le candidat des populations soutenu par la population du Sud, va toujours gagner parce qu'ils sont majoritaires. Maintenant, s'il y a d'autres populations qui appuient cet élu, il va encore gagner plus. Donc, dans un système pareil, les populations qui ne sont pas démographiquement puissantes vont subir le dictat de la population qui est démographiquement supérieure. Et vous voulez faire l'unitarisme, donc il y aura une dictature d'une communauté sur d'autres. C'est ce que vous voulez, c'est ce que l'opposition radicale veut. Hein, nous prendrons le pouvoir, nous leur ferons voir. Mais nous disons que ce système n'est pas bon pour le Togo. Parce que le rapport de force n'est pas seulement un rapport de force culturel, mais un rapport de force militaire. Dans un système pareil, il n'y aura jamais de paix. Il faut passer par le fédéralisme, n'est-ce pas? Le fédéralisme, donc l'État régional. Et donc, je continue de le dire, pour ceux qui veulent, ceux qui aiment le Togo, qui veulent reconstruire cette république, doivent penser autrement. Ils doivent dépasser les prismes de l'éducation, les pensées reçues, ou les formes dans lesquelles l'héritage colonial nous a été donné. Nous devons repenser toutes ces formes-là et réfléchir à ce qui est bien pour notre pays. Et nous le disons encore au MPA, le seul et véritable moyen pour stabiliser notre pays, c'est un modèle fédéral où on reconnaît et on donne une certaine protection tutelle à toutes les grandes communautés ethno-linguistiques dans un cadre fédéral où il y aura une capitale fédérale qui va coiffer et gérer les questions d'ordre international. Voilà.
Eh bien, parlons toujours de votre proposition et parlons justement de l'État régional. Vous soutenez et qu'il permettra un développement équilibré de tout le territoire national, une responsabilisation des régions et des communautés, une sauvegarde de la culture endogène, une unité et une intégration nationale non imposée, mais libre et harmonieuse. Alors, docteur Gada Folie, si vous estimez que les disparités contenues et exacerbées dans la texture sociologique et sociale du Togo ne permettent pas l'unitarisme, alors comment envisagez-vous, et qu'à l'instar de ce qui se passe ailleurs, comme en Italie par exemple, les régions inégalement réparties et nanties consentiraient-elles à se soutenir en solidarité et converger vers la sphère fédérale qui en somme équivaudrait à l'État suprême?
Je crois que une grande partie de votre question se trouve déjà dans les réponses que j'ai eu à donner, n'est-ce pas? Alors, l'État régional que nous proposons, avec 4 grandes régions, et chaque région aura à sa tête un gouverneur, donc c'est le système de gouvernorat, avec une région charnière qui fera office de capitale fédérale. N'est-ce pas? Chaque gouverneur proviendra de la région d'origine. Parce qu'il est malséant chez nous, Africains, que, je prends un Kotokoli, vienne gouverner à Néro. Non, mais écoutez, ça ne sonne pas bien. Vous ne connaissez pas la culture, l'histoire culturelle des populations d'Anéro. Vous connaissez pas les règles, hein, les choses qu'on fait, les choses qu'on ne fait pas. Comment est-ce qu'on se marie? Les cultures. Quand une femme fait l'adultère, quelles sont les cérémonies qu'on fait? Comment on se salue? Et vous ne maîtrisez pas la culture endogène de ce milieu. Vous débarquez. Vous voulez les diriger. Mais écoutez, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Nous sommes pas des Européens où tout est désacralisé. Donc, d'abord, le premier avantage de l'État régional, c'est cela. Chaque région produit un gouverneur qui doit tenir compte des spécificités culturelles de sa région. On ne développe pas les territoires africains comme on le fait de façon profane en Europe. Mais écoutez-moi très bien. Dans certains milieux africains, on vous dira que pour avoir une économie florissante, il faut développer le commerce d'un certain type d'arbre, le palmier, par exemple. Alors, l'économie de ce milieu doit se baser sur cet arbre-là. Mais pour le comprendre, il faut que ce soit un gouverneur qui provienne de cette région. Donc, c'est, nous proposons l'équilibre. Donc, chaque région sera développée suivant le modèle culturel qui est intrinsèque à l'identité de sa région. Les populations pourront construire leur maison tranquillement, pourront cultiver tranquillement dans leur région d'origine, ce qui n'empêche pas que certains citoyens aillent vivre dans d'autres régions, pas du tout. Mais quand vous le faites, vous avez accepté vivre suivant, vous avez accepté d'une certaine façon être assimilé. Et mais ce n'est pas là le problème. Donc l'État régional fera ça d'abord, la préservation des cultures endogènes de chaque groupe ethno-linguistique chez nous. La deuxième chose, il n'y aura pas de frustration des populations du Sud qui se disent « mais depuis 50 ans, un Kabyé nous dirige ». Bon, ce n'est pas moi qui vais le dire, j'ai entendu parler. Vous savez, moi je vis en Europe, de temps en temps quand je viens en Afrique, au Togo, j'écoute les gens parler, je sais ce qui se passe. Donc, les gens, généralement, les gens du Sud sont malades à l'idée de se voir dirigés par des gens du Nord. Vous allez éviter toutes ces frustrations. Mais écoutez, il faut avoir le courage de le dire. Donc, l'État régional permettra à ce que dans chaque région, il y ait les institutions de l'État dans chaque région. Ça dépasse ce que vous appelez décentralisation. Parce que dans chaque région, on pourra faire les passeports. Les trois niveaux de la justice se trouvera dans chaque région. N'est-ce pas? Il y aura une police régionale. Une police régionale, dans chaque région, une police régionale, où les fils de la région seront engagés dans les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police locale. N'est-ce pas? Et donc, tous les services de l'État qui aujourd'hui sont concentrés à Lomé seront distribués dans toutes les régions. Et qu'est-ce que ça fait? Ça produit un développement de l'immobilier et de des infrastructures de chaque région, les routes, les marchés, les choses, les communes, et dans chaque région, ce sera le système décentralisé. Donc le gouverneur reçoit une dotation en ressources pour gérer sa région. Et maintenant, il y aura la capitale fédérale où c'est les questions internationales. Alors, vous me posez la question de savoir en quoi ce système va garantir la paix. Alors écoutez, les ressources naturelles sont inégalement réparties, c'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose, que les ressources naturelles, la terre est un esprit. Et il y a une fusion entre la terre et les hommes qui l'habitent. Quelquefois, quand une population se déplace, vous n'allez pas me dire le contraire, elle se déplace avec les richesses de sa terre. Et donc, il faut respecter les richesses qui se trouvent dans chaque portion de la terre au Togo. Et nous proposons que le sous-sol soit de l'ordre fédéral. Le sous-sol sera... Donc, il n'y aura aucune région n'exploitera une ressource minière pour son propre compte. Ce sera à l'échelon fédéral qui va s'occuper des questions d'exploitation minière sur tout le territoire. Bon, dans tout le territoire, vous m'excusez. Et le port de Lomé sera de l'ordre de l'échelon fédéral. Vous voyez? Et l'armée, c'est de l'ordre de l'échelon fédéral. Et les questions de la diplomatie, de la monnaie, de la souveraineté, c'est décidé au niveau de l'échelon fédéral. Mais il y aura une certaine ultra-autonomie de chaque région. Aujourd'hui, vous savez très bien que les populations au sud disent que quand les choses vont changer, ils vont chasser les gens du nord qui ont acheté des terres chez eux. Ça a été fait dans les années 91-90. Aujourd'hui, au nord, il y a de petits nouveaux villages qui ont été créés parce que quand les gens ont été chassés du sud, ils n'ont plus trouvé de la place, ils ont dû fonder de nouveaux villages. Pourquoi est-ce qu'il y a cette intolérance chez nous? Parce que nous sommes des êtres communautaires. Et c'est le seul mécanisme de gouvernance qui est viable pour notre territoire, c'est le mécanisme du fédéralisme et donc de l'État régional. Voilà. Et je crois que l'État régional va permettre un développement équilibré de tout le Togo. Il n'y aura pas les 40% du Togo qui seront concentrés à Lomé. Non. Chaque région aura des pôles attractifs au plan commercial et culturel, économique, démographique, dans tous les domaines. Et les individus de ce pays vont vivre en paix. Chacun aura une certaine paix sur la terre, sur sa terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Sylvain?
Eh bien, docteur Gada Folie, parlons du problème togolais. Alors, est-ce que ce problème-là ne serait-il pas plutôt le refus obstiné est d'un seul clan, hein. Disons le sans langue de bois, un seul clan Nyasigbe à toute ouverture, hein, son allergie est systématique à toute idée de partage du pouvoir. Alors, pourrait-on encore affirmer objectivement aujourd'hui que l'opposition actuelle, tout de même différente de celle connue entre 70 et 90, soit-elle aussi motivée par des fondements sociopolitiques et historiques que vous avez évoqués?
Sylvain, je vous l'ai déjà dit, et je le répéterai, le Togo a un problème. Et ce n'est pas exclusivement le fait que certaines personnes se soient accaparées le pouvoir d'État. Non. Ceci est le problème d'une certaine partie du Togo. C'est le problème des gens de l'opposition ou du Sud qui ont été écartés du pouvoir depuis 50 ans et qui, naturellement, ils ont raison, veulent aussi diriger. Mais c'est ça leur problème à eux. À partir de leur perspective, c'est ça leur problème à eux. Mais ceux qui sont au pouvoir, ok, et qui oppriment le Sud, je vais préciser ici que quand vous faites la sociologie de l'oppression au Togo, vous devez distinguer entre les opprimés d'ordre communautaire et les opprimés d'ordre de la malgouvernance. Les populations du Sud, généralement ou assimilées, sont opprimées par une certaine position idéologique qui a été prise, hein, depuis les années 60 par l'élite qui nous dirige aujourd'hui, avec le soutien de certaines puissances étrangères qui savent pourquoi ils le font. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des populations opprimées qui vivent au nord. Non, il y a des opprimés au nord. Anti, il y a beaucoup d'opprimés au nord. Mais ils sont des opprimés à cause de la malgouvernance des dirigeants, ou qui sont les privilégiés, qui proviennent d'ailleurs de leur zone. Donc cette oppression, elle est collatérale. Elle est due à l'inexpérience dans la gouvernance, à l'amateurisme dans la gouvernance du Togo. C'est la raison pour laquelle eux, ils sont opprimés en fait. Mais les gens qui sont opprimés par décision idéologique, c'est les populations du Sud. Bon, moi j'ai le courage de le dire. Il faut que les opposants aient le courage de dire. Hein, vous allez m'excuser cette expression. Le problème que nous avons fondamentalement depuis l'époque coloniale, c'est celui-ci. Les rapports sont nombreux, je ne vais pas revenir sur ça. Et donc, c'est ça l'oppression. Mais je dis ceci. Le problème du Togo est plus complexe que ça. Parce que ceux qui sont au pouvoir, eux, leur problème, c'est que des gens du Sud s'agitent. Ils veulent aussi gouverner. Et ils ne veulent pas ça. Donc c'est ça leur problème à eux. Donc, qu'est-ce qui vous autorise, vous, Sylvain, à dire que c'est la perspective des gens du Sud qui constitue le problème du Sud? C'est-à-dire que c'est le fait que certaines personnes aient pris le pouvoir d'État et ne veulent pas partager. C'est juste une perspective. Alors, on ne peut pas réduire le problème de tout le Togo à la perception d'un certain Togo, d'une certaine partie du Togo, même si c'est la partie majoritaire. C'est toujours la vie de certaines personnes. Nous faisons une réflexion super partez, nous disons ceci, pour le bien de tout le Togo, le problème ne peut pas être celui-là, je l'avais dit avant. Alors, je souhaite tout simplement que nos politiques aient de la hauteur pour comprendre que si on doit régler le problème actuellement, il faudrait que la résolution puisse contenter tout le monde, que la résolution puisse comprendre et donner une certaine garantie à tout le monde. C'est ainsi que nous construirons un Togo véritable. Un pays d'harmonie, un pays de paix qui sera un exemple, un modèle dans toute l'Afrique.
Eh bien, docteur Gadafoli, une dernière question pour vous libérer. Et dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique, émission également synchronisée sur nos radios partenaires. Alors, comment pensez-vous que la classe politique nationale pourrait accueillir votre alternative? Alors, comment comptez-vous convaincre cette classe politique de son opportunité et de sa possibilité d'incarner la panacée du problème togolais?
Vous savez, Sylvain, il y a un chanteur congolais qui est qui a d'ailleurs une origine togolaise, Koffi Olomide, qui dit ceci dans l'une de ses chansons. Le mensonge a pris l'ascenseur. La vérité a pris les escaliers. Mais elle y est arrivée aussi. Nous ne voulons pas imposer ce point de vue, cette réflexion aux Togolais. Non. Nous avons réfléchi longuement. Et je crois que nous avons le mérite d'avoir pris en compte dans notre diagnostic la multiplicité des perspectives. Parce que c'est comme ça qu'on construit un pays. C'est comme cela qu'on construit une république. Les errements des années 60 et les représailles que nous avons connues dans les années 50, 60 et après 90, 98, 2005 nous prouvent clairement nous démontre clairement que le Togolais n'accepte pas l'impunité. Et que quand il y a impunité, tôt ou tard, le Togolais cherche à punir, même par des moyens non conventionnels. Dans une situation pareille, les constructeurs de la République doivent être des gens d'une certaine élévation d'esprit. Ils doivent aimer le pays dans toute sa totalité. Ils doivent dépasser les blessures. Et penser à construire un pays qui sera un réservoir de lait et de miel pour tous ses fils. Voilà. Et si aujourd'hui, des gens ne vont pas comprendre, nous sommes là, les gens comprendront demain. On comprendra et on dira, le MP avait raison. Il fallait penser à une organisation de type régional. Il fallait accepter que nous sommes des individus communautaires avant d'être des citoyens individuels. Et il fallait construire nos États en tenant compte de cette donne sociologique importante. Donc nous avons lancé ce que nous appelons la Fédération républicaine pour l'alternative. Nous parlons d'alternative justement, parce qu'il ne s'agit pas ici d'alternance. C'est un système qui nous opprime. Beaucoup de personnes croient que le Togo est dirigé par Faure Gnassingbé-Eyadema, ou est dirigé par une élite nébuleuse togolo-togolaise, ce qui n'est pas vrai. Parce que quand vous poussez la réflexion au-delà du Togo, vous vous rendez compte que nous sommes dans la périphérie et nous sommes encore dans le modèle colonial. Et vous savez très bien, quand vous êtes une colonie, alors vous êtes en périphérie et ce n'est pas vous qui décidez. Alors, si la chose est ainsi, de quelle alternance parle-t-on? De quelle alternance parlent les Togolais? Veulent-ils remplacer Faure et toute l'équipe, tout le système local, pour ensuite demeurer sous la férule et la coupole du centre dont nous sommes la périphérie? Est-ce là l'alternance? Les populations auront-elles, d'un jour à l'autre, après cette alternance-là, la levée des poids sous lesquels elle crie, sous lesquels elle souffre? Je ne crois pas. Donc la problématique de notre État va au-delà de la question de Gnassingbé ou de la question des oppresseurs d'aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que nous réfléchissons. Nous disons ceci, il faudrait notre fédération, je disais donc, c'est la fédération, la FREAL. Nous parlons d'alternative. L'alternative, c'est il faut refonder notre pays. Il faut repenser un autre Togo différent, qui donnera une chance vers une autre nouvelle phase de libération. Ok. Et donc, nous approchons les partis politiques. Nous approchons les associations de la société civile. Nous approchons toutes les forces, la diaspora, tous ceux qui peuvent réfléchir, peuvent comprendre ce que nous disons, qui voient la chose de cette même façon. Il y a le groupe, il y a le grade au Togo qui est arrivé plus ou moins à la même conclusion qu'il faudrait que le Togo passe par une nouvelle constituante. Nous parlons des états généraux pour éviter que le Togo aille à une guerre civile, à un conflit, ou que le Togo aille à une alternance dans la rupture. Où les gens du Nord vont souffrir, parce que si ils refusent, jusqu'à ce que la rupture advienne, l'alternance advienne dans la rupture, il y aura des représailles terribles contre les gens, nos frères du Nord. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Non, nous disons qu'il faut penser le Togo autrement. et le fédéralisme, l'État régional que nous proposons, qui est notre idéologie politique. Hein, c'est notre idéologie politique, c'est avec cela que nous essayons d'approcher les partis politiques et tous ceux qui sont intéressés. Et notre fédération se préparera pour être une formation politique centriste et républicaine dans notre pays pour la reconstruction du Togo.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Gada Ekwefoli, hein. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir éclairé. Et je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices que vous venez de publier un document sur la Fédération républicaine pour l'alternative FRIL. Merci et bonsoir.
Je vous remercie.
Eh bien, mes auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à nos radio partenaires FM Liberté à Chicago, Radio Dinigma à Moline aux États-Unis. Nous vous souhaitons une très bonne continuation d'écoute sur nos radios partenaires FM Liberté et Radio Dénigrement. Quant à moi et mon équipe, nous vous retrouvons samedi prochain, même heure, même studio. Bonsoir.